Cours d'éthique politique par le père Philippe. À Rimont, le 23 mai 91.
Comme de fait, hein. Dès que la Pentecôte est passée, on est très proche de la fin. C'est toujours comme ça, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Alors, pour le cours que nous voyons ensemble, c'est-à-dire sur la famille, moi j'aimerais beaucoup, si vous êtes suffisamment éveillé pour ça, que vous écriviez vous-même les grandes questions qui vous intéresseraient qu'on traite sur la famille. Parce que moi je fais mon petit train, mais j'aimerais, parce qu'alors on ne fera pas nécessairement tout ce qui vous intéresserait. Vous voyez? Bon, on voit au plan philosophique la famille. Vous avez sûrement en tête des questions sur la famille au plan philosophique qui vous intéresseraient. Parce qu'autrement, on termine l'année, s'il avait traité ça, il n'a pas traité ça. Là, je vous prends au jeu, hein, comme ça vous ne pouvez pas dire à la fin, on n'a pas traité telle question. Comme il ne reste plus beaucoup de cours, hein. Alors réfléchissez-y, et frère Martin recevra toutes ces questions. Parce que moi, que je ne reste que peu de temps, et que les inspirations peuvent venir le lendemain, et une inspiration de l'écrire tout de suite. Alors, frère Martin recevra tout ça, et puis on verra ensemble les questions qui seront intéressantes à traiter. J'essaierai de répondre à toutes. C'est ça pour vous. Parce que comme on ne peut pas tout traiter, pourriez-vous répondre à cette objection souvent entendue? Vous voyez, ce genre de truc, c'est très bien ça. Il a devancé mon désir. C'est du reste ça qui m'a donné l'intelligence de la chose. Pourquoi le Créateur nous a-t-il donné un corps? Si le don des corps n'est pas impliqué par l'amour spirituel. C'est parce que le Créateur a voulu communiquer à des pauvres petites créatures la capacité d'être source de vie. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Le Créateur a voulu, dans sa sagesse, aller le plus loin possible dans la communication de l'être et de la vie. Être source de vie relève, selon toutes les grandes philosophie, et surtout l'aristotélisme et le néoplatonisme, la fécondité provient toujours d'une perfection du vivant. Constatation, en fait. On sait très bien que seul le vivant parfait est source de vie. Et quand il s'agit même de l'homme, de la nature humaine, il faut les deux, l'homme et la femme. C'est une espèce de complémentarité qui est très forte. C'est là où la complémentarité est la plus absolue, et je dirais, c'est là où la complémentarité prend toute sa signification. C'est à l'égard de la fécondité, à l'égard de la procréation. À partir de là, on voit les autres complémentarités. Mais c'est là où la complémentarité, je dirais, joue pleinement. Alors, Dieu a voulu qu'il y ait une créature spirituelle. Seule la créature spirituelle est domina sui. C'est-à-dire qu'elle est responsable de ses actes. L'araignée ne l'est pas. Donc elle vous pique avec amour, sans être responsable. C'est pour ça que vous n'avez aucune haine contre les araignées. Vous avez au contraire un très grand amour qui demeure. Donc seule la créature spirituelle est responsable de ses actes. Pour communiquer à une créature cette capacité d'être source de vie pour une autre, et d'être responsable d'être source de vie. Il faut ce lien entre le point de vue spirituel et le corps. Réfléchissez, l'esprit seul ne peut pas être fécond d'un autre esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit implique une qualité telle qu'il ne peut être que créé par Dieu. Il est lié à l'être. Et l'être dépend directement de Dieu. La création, c'est réaliser quelque chose à partir de rien. Un artiste ne touche pas l'être. Il fait des manipulations. Il fait des transformations. Sa création regarde une relation, pas l'être. Donc une forme. Toujours. Seul l'acte créateur de Dieu touche l'être. Et c'est du reste pour ça, c'est tout à fait autre chose, mais c'est pour ça que l'Église maintient transsubstantiation. Parce que ça touche le point de vue de l'être. C'est l'être du pain, l'être du vin qui est touché. Et c'est l'être du corps du Christ et du sang du Christ qui est présent. Transfinalité, transsignification ne signifie pas cela. Je puis faire des transsignifications. Je puis faire des transfinalités. Mais je ne peux pas faire une transsubstantiation. L'homme est incapable dans son voie de chair. Dieu seul, comme créateur, touche l'être. Donc, un être purement d'esprit, comme l'ange, ne peut pas être source de vie d'un autre ange. Ne peut pas être source d'un être. Oui, c'est ça qui est très curieux. Alors là, c'est toute la question de l'esprit. C'est la noblesse de l'esprit. La noblesse de l'esprit, c'est que sa vie s'identifie à l'être. Elle est distincte de son être. Mais sa vie, dans sa finalité, touche l'être. Tandis que ma vie végétative, non. Ma vie passionnelle non plus, ma vie sensible. Il n'y a que l'esprit. Et je crois que c'est ça qu'il faut saisir. Hein. Qu'un esprit créé ne peut pas être source d'un autre esprit créé. Donc, l'âme spirituelle créée immédiatement par Dieu ne peut pas être source d'une autre âme spirituelle. Mais si cette âme est forme substantielle, informe directement un corps, je ne dis pas la matière, un corps, c'est-à-dire un être capable de recevoir une âme spirituelle, et capable d'être informé par cette âme spirituelle, par le corps, par la médiation du corps, il est possible que la vie soit transmise. Non pas la vie spirituelle, mais une disposition ordonnée à la vie spirituelle. Puisque c'est Dieu qui seul peut créer l'âme spirituelle. Donc ça restera toujours le point de vue du mystère de la procréation. Ou si vous voulez, le problème de la procréation. C'est quasi un mystère, hein, plan philosophique. Parce que vous touchez la coopération avec le Créateur. Donc c'est un acte qui, à ce point de vue-là, est sacré. Il est au-delà de la morale. La morale est premièrement les relations humaines de justice. Tandis que là, ça touche directement le point de vue de l'amour. C'est de l'ordre de la fécondité et non pas de l'efficacité. C'est ce que je vous avais dit la dernière fois. Distinguons bien les deux ordres. Et qu'on tend à confondre aujourd'hui. Si une chose est efficace, elle est bonne. Quand il s'agit de la fécondité, il faut aller plus loin. Parce que ça touche directement l'amour. Pas de fécondité sans amour. L'amour réclame la fécondité. Je veux dire, la fécondité réclame l'amour. Alors, c'est à l'égard de la fécondité qu'il peut y avoir cette coopération de la créature avec le créateur. C'est la seule coopération qui existe. Puisque Dieu ne peut pas se servir d'instrument comme créateur. Il n'y a pas d'instrument pour la création. Mais il peut y avoir une coopération au niveau de la procréation. C'est extraordinaire, ça. Alors, quand on essaie de contempler un peu ça au point de vue philosophique, hein, on voit que dans sa sagesse, Dieu a voulu aller le plus loin possible dans l'ordre de la création pour qu'une créature puisse coopérer avec lui dans la procréation et devenir par là source de vie pour un autre être qui ne soit pas seulement un animal, mais pour un être qui soit un homme, parce que Dieu fait cette alliance avec l'homme. Dieu laisse à l'homme l'initiative de la procréation. Et Dieu répond à cette initiative. On est donc en face d'un acte qui, au point de vue philosophique, est unique. Unique. C'est pour ça que je dis c'est du sacré, c'est pas seulement de l'ordre éthique. Vous voyez, on a trop moralisé la procréation. Dans le sens que quand on moralise trop quelque chose, on lui enlève son caractère propre. Vous savez bien. Quand on moralise l'art, ce n'est plus de l'art. C'est curieux ces choses-là. On doit moraliser ce qui est moralisable. Il est dit qu'il y a des limites. L'amour, au sens très très fort, fonde la morale, mais il est au-dessus de la morale. Et lorsqu'il s'agit de la procréation, on est en présence d'un acte, d'une opération vitale, d'un acte qui implique la coopération de l'époux et de l'épouse. Dans une complémentarité. Et cette complémentarité est d'ordre biologique. C'est sûr. Elle est d'ordre biologique. Mais cette complémentarité permet qu'un être soit capable de recevoir une âme spirituelle créée par Dieu. Donc il y a coopération de deux êtres humains dans un don mutuel d'amour pour devenir source de vie pour un être nouveau que Dieu reçoit, que Dieu considère et auquel il donne son achèvement. La création de l'âme, dans le corps, dans le fœtus, dans l'œuf nouveau, dans l'embryon. Alors voyez, je crois que c'est la raison première pour laquelle Dieu a voulu dans sa sagesse la création de l'homme et de la femme. Comme son chef-d'œuvre de créateur. Au plan philosophique, c'est très net, hein. Au plan théologique, la question se pose parce que les esprits, les anges ne sont pas plus chefs-d'œuvre de Dieu que l'homme. Je parle ici au plan du philosophique. Au plan philosophique, je ne peux pas parler des anges, parce que j'en ai jamais vu. Comme philosophe. Comme enfant de Dieu, j'en ai peut-être vu. Mais ça, c'est autre chose, un autre problème. C'est dans ma foi. Mais en tant que philosophe, je n'ai jamais vu d'ange. Vous non plus. Le philosophe est incapable de capter les anges. Il a pu rêver à ça, les éons, les intermédiaires entre Dieu et la création, tous les néoplatoniciens, toutes les traditions religieuses aiment de mettre des intermédiaires, mais ce sont des rêves. Au plan philosophique, je ne peux pas, donc je peux dire avec beaucoup de force au plan philosophique que l'homme est chef-d'œuvre, l'homme et la femme sont chefs-d'œuvre de Dieu, de la création. Au plan théologique, le problème va se poser, est-ce que la foi va détrôner l'homme d'être chef-d'œuvre de Dieu? C'est une très, très belle question, hein, au point de vue théologique. La grâce ennoblit la nature, hein, on le dit. Alors est-ce que la grâce ennoblit la nature jusque-là, pour maintenir que l'homme et la femme sont chefs-d'œuvre de la création. Question qu'elle vous est pas posée. Hein. Quand vous dites que la grâce vient perfectionner la nature, alors tout de suite l'objection, mais est-ce qu'avec la grâce, où je sais que Dieu a créé des anges, est-ce que l'homme est encore chef-d'œuvre de Dieu? Ou est-ce que les anges passent avant? Dans la famille de toutes les créatures, créature spirituelle, l'ange est plus intelligent que l'homme, c'est sûr. Parce que l'union de l'esprit et du corps ne favorise pas tellement l'intelligence. Post-chiboum, c'est difficile de spéculer. On sait, le poids du corps, la fatigue, mais au point de vue de l'amour, ah, c'est autre chose. Voilà une chose très curieuse. Au point de vue de l'amour, Dieu peut communiquer à ses benjamins, à ses plus petits, une capacité plus grande d'aimer. Et donc, si l'œuvre de la création est d'une manière ultime et première, une œuvre d'amour et de surabondance d'amour qui porte la sagesse de Dieu. L'amour est inclus dans la sagesse. On peut dire que c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Et ça reste le chef-d'œuvre de Dieu. À cause de cette plus grande possibilité d'aimer. Et je vois cette capacité plus grande d'aimer à deux signes. Le point de vue de la procréation et le point de vue de l'amour d'amitié. L'amour d'amitié, point de vue naturel, n'existe pas dans les anges. Les anges ne forment pas une communauté naturelle. C'est une communauté surnaturelle, c'est tout de suite une église. Une assemblée surnaturelle, les anges. Il n'y a pas d'amour naturel entre les anges. Il n'y a pas non plus d'opposition, hein, d'inimitié. Il n'y a pas d'amour naturel. Ils sont monolithes. Ils sont tous des ermites. Seuls avec Dieu. Naturellement. Ce n'est qu'au plan surnaturel qu'il peut y avoir une communion parmi les anges. C'est très étonnant, du reste. Alors, ça me permet de dire que c'est vrai, Dieu a voulu créer l'homme et la femme comme chef-d'œuvre de la création, dans dans une perspective philosophique comme dans une perspective théologique. Je peux le dire. Parce que là, il a pu communiquer d'une manière toute spéciale le point de vue de la vie et le point de vue de l'amour. Il peut faire de l'homme et de la femme des sources de vie pour des êtres semblables à eux. Et ils peuvent, en créant l'homme et la femme, en créant des êtres qui ont même nature, il y a un fondement, un amour d'amitié possible. Et ce fondement d'amour d'amitié possible fait que l'homme, pour l'homme, peut être une fin. Pas absolue, partielle. Peut-être son bien. Tandis qu'au niveau angélique, jamais, au point de vue naturel, un ange est le bien d'un autre ange. Très curieux, ça. Et ça fait comprendre pourquoi Dieu a créé le point de vue du corps et son chef-d'œuvre avec un esprit lié à la matière, lié à un corps. Sur les deux aspects, je peux ajouter un troisième. C'est déjà suffisant, ça. Un troisième. C'est que Dieu a voulu aussi que l'homme soit capable d'être un artiste. Dieu n'a pas voulu créer le monde le plus parfait qu'il puisse être, par amour pour l'homme, le monde physique, par amour pour l'homme, pour laisser à l'homme la possibilité de l'achever. Il y a aussi la possibilité de le détraquer. Il y a les deux. C'est un risque. Parce que si l'homme est capable d'achever l'univers physique, il est capable aussi de le détraquer. Il ne faut pas l'oublier. C'est un péril. Et Dieu a eu des audaces folles par rapport à l'homme et la femme. Oui, c'est là on voit, c'est ces audaces folles des parents par rapport aux Benjamins, des petits derniers. Les aînés sont jaloux de ça. Et j'ai entendu ça combien de fois dans des familles nombreuses. Mais vous n'étiez pas du tout comme ça avec nous. Pas du tout comme ça. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez complètement perdu la tête. Avec les aînés, avec nous, vous étiez sévères. La justice dominée. Avec les petits derniers, il n'y a plus que l'amour. Il n'y a plus que la tendresse. Vous aimez vous laisser presque rouler par eux. Vous aimez qu'ils passent devant. On a tous entendu ce genre de paroles. C'est très très curieux du reste. C'est très intéressant. Parce que ça fait comprendre quelque chose du mystère du Créateur et de la sagesse de Dieu. Il a voulu que l'homme et la femme puissent achever le monde physique. Dans sa délicatesse d'amour. Dieu veut que l'homme et la femme puissent être des artistes. Mais si le monde avait été parfait, position de Leibniz, les philosophes qui ont rêvé ça, sont des idéalistes. Parce que pas voir le mal, c'est quand même gros. Si le monde avait été parfait, l'homme n'aurait plus qu'une seule chose à faire, c'est de cueillir des fruits. Et vivre uniquement comme quelqu'un qui est dans un monde parfait. Il ne faut surtout pas changer. Rien ne change rien. On vous a habitué des points de jeunesse, surtout ne change rien. Tout ce qui pousse, c'est parfait. C'est merveilleux. Respecte, respecte. Dieu n'a pas voulu ça. Il a laissé à l'homme la capacité de compléter, d'achever l'œuvre de la création. Vous voyez, des philosophes comme Platon, qui ont cherché l'origine de l'art, ont bien senti ça. Ils n'ont pas par le petit animal et le petit de la femme, en voyant que l'homme naît dans une fragilité unique, comparativement à l'animal. On reviendra là-dessus, à propos de l'éducation. Et Platon dit, c'est pour ça qu'il y a l'art. On peut aller un peu plus loin et dire, c'est très vrai, mais même par rapport à l'univers, tu as laissé à l'homme une place. Achever l'univers. Le compléter par le point de vue artistique, par le point de vue technique. Aujourd'hui. Mais encore une fois, hein, je l'ajoute tout de suite avec la possibilité de tout détraquer. Parce que si on permet le complément, on permet aussi la destruction. Ça va ensemble. Parce que ça prouve que le monde physique reste dans une fragilité qui demande d'être achevée par l'homme, ou au contraire peut-être détruite par l'homme. Tu aurais pu très bien faire autrement dans sa sagesse. Ben c'est la question que se pose saint Thomas, et je crois qu'elle est très très belle, elle a une signification très profonde. Et saint Thomas ne voit que quelques œuvres de Dieu. On ne peut pas aller plus loin. La maternité divine de Marie. On ne peut pas réaliser quelque chose aussi grand, de plus grand, que la maternité divine de Marie. Le mystère de l'incarnation. On touche un absolu, voyez là. Où il y a quelque chose de créé, mais enveloppé du divin. Et complètement enveloppé du divin. Parce que dans l'ordre divin, Dieu a créé un chef-d'œuvre. On ne peut pas aller plus loin. Mystère du Christ. Dans l'ordre surnaturel, pas dans l'ordre naturel. Dans l'ordre naturel, les choses sont corruptibles. Et Dieu laisse la corruptibilité. Mais dans l'ordre surnaturel, de fait, surtout avec le mystère du Christ, les choses sont parfaites. Atteignent leur sommet, atteignent leur perfection. Il y a une cause exemplaire. Si dans l'ordre naturel, il n'y a pas de cause exemplaire, il y en a plusieurs, pas une seule. Pour les anciens, il y avait les corps célestes, mais comme ceux-là ne sont plus les corps célestes, comme les anciens prétendaient, il n'y a pas de causalité exemplaire. Parfaite. Tandis que dans l'ordre surnaturel, oui, il y a une cause exemplaire. Parce qu'il y a un maximum d'aller. Il y a quelque chose qui est parfait. Donc vous voyez, je vois trois raisons pour mettre l'union de l'âme spirituelle au corps. La procréation, l'amour d'amitié. Et là, puisque l'art est un complément de l'œuvre créateur. Vous voyez la parole de Dante, qu'il ne faut jamais oublier, qui est si forte. L'œuvre d'art, petite fille de Dieu. Donc ça prouve que Dieu, là, se sert de l'homme pour compléter son œuvre de créateur. Si vous voyez d'autres raisons, dites-les-moi. Pourquoi, si longtemps, la procréation est-elle apparue comme la première finalité du mariage, au lieu de l'amour d'amitié? Si longtemps, on a mal compris saint Thomas. Toujours la scolastique, décadente. Je voudrais, je ne l'ai pas vu. J'aurais dû le regarder. Mais parmi vous, s'il y en a un, regardez dans Suarez. Parce que c'est celui qui est le beau commissaire. Suarez a détraqué la métaphysique. Complètement. L'apologétique a empoisonné le monde chrétien. L'apologétique est bonne, mais quand l'apologétique prend le pas de la contemplation, c'est effrayant. Oui, c'est la rhétorique qui remplace la philosophie, la métaphysique. Parce que l'apologétique, c'est la rhétorique. C'est très bien d'avoir un petit peu de rhétorique. Mais, vous savez bien, un rhéteur, on se fatigue d'un rhéteur, moi je sais pas moi. Par un ami rhéteur qui parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas de fin. Tu tais-toi. Cherchons un peu la vérité. C'est le vraisemblable. Alors, je ne sais pas, venez, regarde Suarez. Ça m'intéresserait beaucoup de voir si c'est. J'ai beaucoup de raisons pour dire ça, vous voyez, mais je ne peux pas l'affirmer, parce que je n'ai pas vérifié. J'ai vérifié surtout dans Suarez sa philosophie, plus que sa théologie. Et quand vous regardez la théologie de la grâce chez Suarez, vous voyez que, pff, là 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 là, c'est terrible. Puisque les vertus de foi, d'espérance et de charité n'ont plus de finalité propre. Uniquement une modalité, alors je comprendrais très bien que par rapport au sacrement, ce serait intéressant de regarder ça. Parce que pour saint Thomas, si on comprend bien saint Thomas, c'est pas. On comprend que la finalité première du mariage, c'est l'amour d'amitié. C'est ça qui structure. C'est ça qui est source. L'enfant et de fait finissent. Effectus, c'est le fruit de l'amour d'amitié. Alors, l'Église a beaucoup insisté pendant des années et des années, et elle continue du reste, sur les familles nombreuses. Pourquoi? À cause de l'éducation, à cause de la générosité, du don de soi. On ne peut pas nier. L'Église ne se place jamais, vous voyez, se place d'un point de vue plus pédagogique pour éviter certains autres aspects qui seraient plus nocifs. Et si l'Église avait dit, oh, n'ayez pas beaucoup d'enfants, c'est mieux, c'est mieux. Au nom de quoi elle l'aurait dit? Alors c'est vrai que beaucoup insisté, mais ça je crois que c'est parce que quelle est la théologie qui a dominé dans l'Église? C'est la théologie de Suarez. C'est un fait. C'est une théologie qui a dominé. On sait très bien qu'il y a eu la querelle Théoxilis qui a duré très très longtemps. Et cette querelle Théoxilis qui a duré très longtemps, c'est terminé en queue de poisson. Si j'ose dire. En ce sens que l'Église a demandé aux théologiens de se taire. Comme les théologiens de ce temps étaient obéissants, ils se sont tus. Et alors à ce moment-là, c'est la théologie de Suarez qui l'a emporté. Et dont on voit les conséquences maintenant. Ça, c'est un fait. Il faudrait une fois faire un travail historique. Point de vue métaphysique, on le voit très bien. Vous voyez la fureur de Heidegger contre la métaphysique. C'est pas la métaphysique de saint Thomas, c'est la métaphysique de Suarez. Et là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais au plan théologique, ce serait intéressant. Comprendre un peu comment ce glissement qui s'est fait, ce glissement est simple à comprendre. C'est la causalité efficiente qui l'a emporté sur la causalité finale. Si la causalité efficiente l'emporte sur la causalité finale, la finalité première du mariage devient des enfants. Or, n'oublions pas que la causalité finale, immédiatement après saint Thomas, a disparu. Avec Don Scott, Oka. Don Scott disant que la causalité finale est métaphorique. Si la causalité finale est métaphorique, elle ne peut plus être source d'une véritable finalité. Alors, l'amour d'amitié ne joue plus ce rôle de fin. Et donc, n'est plus source. Première finalité du mariage n'est plus l'amour d'amitié des conjoints. En prenant amour d'amitié au très grand sens, hein, c'est-à-dire un amour spirituel de don, et de don de l'esprit et du corps. Donc de don total. C'est ça l'amour d'amitié. C'est un amour spirituel qui est capable d'impliquer un amour réciproque. Alors je crois que c'est la grande raison. C'est pour ça que je crois très fort, mais je ne peux pas le vérifier. Jetez-vous après la cour tout de suite sur la théologie de Suarez, regardez le mariage, vous verrez ça tout de suite. En 3 minutes, c'est fait. C'est intéressant de voir ça. Parce que là, vous touchez quelque chose qui est très important. Vous voyez, la confusion entre autorité et pouvoir. C'est fait chez Occam parce que la finalité n'était plus une finalité. Alors c'est la causalité efficiente qui l'a emporté. Alors, une fois qu'on a compris ça, on comprend toutes les autres conséquences. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est l'avantage d'aujourd'hui. On est obligé, parce que quand on voit les dégâts, les conséquences. On est obligé de redécouvrir le point de vue de la finalité et remettre en place ce que représente ce primat de l'amour, ce primat de la découverte de la finalité dans tous les ordres, jusqu'en métaphysique.